vont-ils rejoindre le mouvement? Ce magasin, la violence est encore montée d'un cran aujourd'hui.
Trois vendeuses devant les prud'hommes, elles demandent réparation suite au préjudice moral subi le dernier jour des soldes.
La police parle de 825 000 personnes dans la rue, les syndicats évoquent 3 millions de manifestants.
Radio Canu, la plus rebelle des radios.
That boy you call is a diamond fella. All you little boys have a comedy of errors. You bellow what your fellows get tamed like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. You, what are you gonna do? Little boys get tamed like the shoe. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm Capulet, you're Monarch, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, couldn't sell your CD. As for me, all's well, that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about Timon, I know who's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions.
Bonsoir.
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 Il est 19h passé de 3 minutes. Nous sommes le 12 février et c'est l'heure du Canu Info.
Avec ce soir, mort d'une enfant à Bobigny.
Alors on en rigole, si les femmes sont sectaires, je me fais curer.
En Centrafrique, la présidente promet la guerre aux anti-balaka.
Ensuite, on passera à la rubrique « Il faut que ça se sache » avec une arrestation à Paris du gars qui jetait de l'acide sur les Roms.
Avec une tentative de passage à la nage, c'est à Ceuta.
Ensuite, à Calais, des manifestations d'exilés.
Des violences policières au centre de rétention, ça c'est à Saint-Exupéry.
Et le maire de New York donne des papiers à 500 000 de sans-papiers. On finit sur une bonne nouvelle. Alors on va finir sur une bonne nouvelle, mais on va commencer par une triste nouvelle. Un incendie s'est déclaré dans le binoville des Coquetiers à Bobigny, où vivent environ 200 Roms, et cet incendie s'est déclaré vers 5h40 du matin. Après cet incendie, une gamine de 8 ans a été retrouvée morte dans une des cabanes. On ne sait pas si cet incendie est volontaire ou accidentel. On ne sait pas si c'est un connard qui allait foutre le feu ou si c'est dû à un poêle pour se chauffer. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'en 2012, 11 bidonvilles ont été touchés par des incendies et qu'en 2013, ce chiffre a doublé. Il y en a eu 22 de recensés. Ce que montrent ces chiffres, c'est qu'au final, que ce soit des voisins dégénérés qui allument des feux pour foutre le feu à un camp, que ce soit des politiques de tous bords qui ont soufflé sur les braises de l'Aisne, ou les flics et leurs ministres qui, à coup d'expulsion massive, foutent des gens dans les pires conditions. Le résultat est lui-même. Dans les bidonvilles, des gens y vivent, mais d'autres y meurent. Que les responsables soient aussi bien un incendiaire qui veut brûler du rhum, que le maire d'une commune qui appelle à des rassemblements contre l'installation de familles, que le commissaire et ses flics qui expulsent jusqu'à deux fois par semaine en Seine-Saint-Denis, que la mairie qui coupe l'eau et les lacs dans des squats rendant impossible le fait même de pouvoir éteindre un départ de feu. Si ces chiffres ont doublé, c'est parce que dans ce pays, il règne une ambiance nauséabonde, où les Roms sont montrés comme le paria et deviennent une cible à abattre. Alors Valls a beau nous faire son manège de la grande tristesse et sa police scientifique peut bien enquêter sur les circonstances de sa mort. On les connaît déjà, elle est morte parce qu'elle était Rome.
Alors, un petit « on en rigole », c'est le député UMP Georges Fenech qui est député du Rhône qui a estimé lundi que la mission interministérielle de lutte contre les sectes, donc ce qui s'appelle le Milivud, devait demander la dissolution du mouvement des Femen, dont les actions, selon lui, s'appartiennent à des pratiques à caractère sectaire et que leur action porte une atteinte grave à l'ordre public. Alors, sur l'atteinte à l'ordre public, ok, bah, ça on n'a rien à dire, c'est un peu le principe de leur action. Mais qu'elles appartiennent à des pratiques sectaires, c'est plus étonnant. Ils sont un petit peu prudes, ces messieurs de l'Assemblée, qui ont peut-être du mal avec la nudité, je ne sais pas. En tout cas, c'est une vraie perle ce qu'il déclare. Je cite donc, ce mouvement d'origine ukrainienne qui s'est enraciné en France n'a pas hésité en maintes occasions à se livrer à des actions spectaculaires qui s'apparentent à des pratiques à caractère sectaire, donc contestation violente de l'ordre social, contestation violente de l'ordre religieux établi, profanation de lieux de culte, selon des méthodes répandues dans les mouvements satanistes. On apprend un nouveau truc. Menaces contre les institutions et en particulier contre le chef de l'État, attaques répétées contre la laïcité. Donc en vrai, si les phénomènes sont sectaires, c'est que un peu toutes les personnes qui défendent les droits des femmes et des LGBT ben, sont sectaires. Et ben moi je me demande si lui, quand il se rend à la messe tous les dimanches avec sa petite famille, il n'est pas un peu plus sectaire que nous.
En Centrafrique, la présidente promet la guerre aux anti-Balaka et Paris exclut toute partition. Alors ce que je vais vous raconter, c'est sur la base d'un article de 20 minutes et où il y a quand même plusieurs trucs à noter, quoi. Donc la présidente centrafricaine, la nouvelle présidente, qui s'appelle, j'espère que cette fois-ci vous l'aurez compris, parce que quand même on en parle à peu près toutes les semaines, hein, qui s'appelle Catherine Samba-Panza, a promis aujourd'hui la guerre aux miliciens anti-Balaka qui multiplient les exactions contre les civils musulmans au risque de conduire le pays à une partition que Paris, principal allié de Bangui, juge inacceptable. Donc alors, on se rappelle, la Centrafrique, le bordel, la France qui décide d'intervenir, alors la France qui a contribué à foutre le bordel en Centrafrique depuis bien avant l'indépendance, en réalité depuis toujours, mais depuis l'indépendance aussi, sans arrêt, la France décide d'intervenir. Et là, en ce moment, on aurait un peu deux camps en Centrafrique. Le camp des chrétiens, avec les miliciens chrétiens, qui sont les anti-Balaka, et le camp de ceux qui sont appelés musulmans, mais en réalité, c'est quand même pas si simple que ça, avec leurs miliciens qui sont appelés la Seleka. La Seleka a eu le dessus pendant un certain temps, jusqu'à l'intervention française, qui date de décembre, et qui a fait un peu que maintenant, voilà, la Seleka, maintenant ils ont plutôt le dessous. Et ce qui fait que cette milice anti-Balaka, donc les chrétiens, se mettent à buter du musulman à tire-larigot. Et donc on vous en a parlé mercredi dernier, puisque l'armée centrafricaine venait d'être reconstituée et que le jour de cette reconstitution, 5 minutes après la fin de la cérémonie officielle de cette reconstitution, et ben les militaires qui étaient là avaient foncé sur quelqu'un qui était là dans la foule, un civil qui était là dans la foule, l'avait traité de Seleka, donc de musulman, et l'avait tué à coups de pied, de poing et de couteau. Donc voilà, c'est quand même là qu'on en est en Centrafrique. Là-dessus, la présidente, qui est quand même pas très contente de ça, nous a fait un petit discours aujourd'hui où elle disait « Les anti-Balaka, on va aller en guerre contre eux, donc les chrétiens. Ils pensent que parce que je suis une femme, je suis faible, mais maintenant les anti-Balaka qui voudront tuer seront traqués. » Donc un langage de fermeté. Elle a dit ça lors d'une visite en compagnie du ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Et alors là, ce qu'on va voir dans cet article de 20 minutes, c'est que Jean-Yves Le Drian est quand même là quasiment à toutes les lignes. Donc on parle bien de la Centrafrique. Hein. On se souvient que la Centrafrique est un pays indépendant, en tout cas qui est censé être indépendant. Il se passe que le président précédent, Michel Djotodia, a été viré une fois que la France a décidé qu'il serait viré. Donc là, il y a une sorte de petite réunion de chefs d'État africains à laquelle il n'est pas venu, et puis en fait il a démissionné au moment de la réunion, mais la réunion avait été en réalité convoquée pour ça. pour qu'ils dégagent. Et donc, en fait, encore une fois, c'est vraiment la France qui décide de A à Z ce qui se passe en Centrafrique. Et donc là, c'est cette présidente qui, si ça se trouve, est pas si mal que ça, hein. Mais en tout cas, une chose est claire, c'est que si elle est présidente, c'est parce qu'elle a fait ses études à Paris, parce qu'elle est directrice d'une compagnie d'assurance dont les actionnaires sont principalement parisiens, parce qu'elle est extrêmement francophile, quoi. Donc continuons. Ces propos offensifs de Madame Samba Panza font écho aux déclarations menaçantes tenues ces derniers jours par Monsieur Le Drian, tiens, le ministre français de la Défense, et les combattants des contingents français et africains en Centrafrique qui visaient directement les miliciens et les pillards sévissant en toute impunité. Donc maintenant, on revient à la présidente qui dit « Les anti-balakas ont perdu le sens de leur mission, ce sont eux qui tuent, qui pillent, qui volent, est-ce que c'est normal ?» Et bon, mais alors elle, par contre, elle n'est pas d'accord avec le terme de nettoyage ethnique que Amnesty International a utilisé hier pour décrire ce qui se passe en Centrafrique. Je ne pense pas qu'il y ait d'épuration confessionnelle ou ethnique, il s'agit d'un problème d'insécurité, a-t-elle estimé. D'anciens responsables de la Séléka avaient déjà fait état publiquement de leur volonté sécessionniste depuis les confins du nord-est du pays, majoritairement peuplé de musulmans, qui échappent depuis des années au contrôle d'un État centrafricain en état de quasi-faillite permanente. Et donc voilà, donc ce qui se passe, c'est que là maintenant, il y a des gens qui veulent la sécession, qui voudraient que le pays soit divisé entre, d'un côté, les musulmans, d'un autre côté, les chrétiens, et que le pays soit divisé géographiquement. Alors quand même, personne n'acceptera quelque partition que ce soit, il faut absolument l'empêcher, à répliquer, qui ça? Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Pour la France, il n'y aura qu'une seule Centrafrique, qu'une seule chef de l'État. Oui, mais en fait, enfin, oui, d'accord. Et pour Monaco, par exemple, pour la principauté de Monaco, non, ça, tout le monde s'en fout, bizarrement, alors que quand même, c'est quand même important ce qu'ils en pensent. Eh ben non, et bizarrement, c'est quand même la voix de la France qui est importante dans l'histoire. Toute tentative de penser autrement rencontrera l'opposition de la France et celle de la communauté internationale, a poursuivi M. Le Drian. Il a parlé de la communauté internationale. Attention, il n'en sait rien, hein, je veux dire. La communauté internationale, on n'a rien à foutre. Globalement, ne s'exprime pas sur le sujet. Mais M. Le Drian s'exprime au nom de la France et de la communauté internationale. De son côté, Mme Samba Panza, c'est-à-dire derrière M. Le Drian, on peut se dire qu'elle peut aussi dire quelque chose, et donc, mais bon, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la même chose, hein. A fait état de sa ferme volonté de ne pas céder un seul pouce du territoire centrafricain qui a toujours été uni et laïque. C'est donc la troisième fois que M. Le Drian se rend en Centrafrique depuis le déclenchement de l'opération militaire française Sangaris, donc c'était le 5 décembre. Alors hier à Brazzaville, il avait donc, pas en Centrafrique hein, cette fois-ci, au Congo, il avait durci le ton contre les milices qui sévissent en Centrafrique, affirmant que les forces internationales étaient prêtes à mettre fin aux exactions par la force. Il faut que l'ensemble des milices qui continuent aujourd'hui à mener des exactions, à commettre des meurtres, arrêtent, avait averti M. Le Drian. Jusqu'à présent, les militaires étrangers ne sont pas parvenus, bizarrement, à mettre fin aux violences meurtrières et aux pillages. Il faut quand même dire que les militaires étrangers en Centrafrique, c'est pas seulement les Français, c'est aussi la MISCA, la mission internationale, je sais pas quoi, là. C'est-à-dire des militaires d'autres pays africains, mais les autres pays africains, c'est en gros à 95% le Tchad. Le Tchad qui a un peu décidé que la Centrafrique, donc Idriss Déby, qui a un peu décidé que la Centrafrique était chez lui, en sachant que le Tchad, c'est aussi chez Le Drian quand même, parce que Idriss Déby, c'est un ami de la France plus. Et un ami de la France, quand on parle d'Africain ami de la France, c'est-à-dire un larbin de la France, qu'on soit bien clair. Et donc le Tchad est intervenu dans la crise, mais bon, il est intervenu quand même vraiment complètement du côté de la Séléka. C'est-à-dire que là, effectivement, ils mettent pas fin aux violences meurtrières et aux pillages, mais c'est aussi parce qu'ils sont pas vraiment là pour ça. Ils sont là pour un tas d'autres raisons, mais pas exactement celle-là. En sachant que la MISCA, donc c'est cette mission africaine, a actuellement 5400 hommes sur le terrain, soutenus par 1600 soldats français. Alors ce qui s'est passé aussi, c'est que cette mission en Centrafrique, on avait décidé qu'elle serait très courte, et puis là, Le Drian a dit que non, en fait, ça va être plus compliqué que ça. Et en fait, ça aussi, c'est... Enfin, c'est-à-dire que, pour l'instant, l'ordre n'est pas rétabli, mais en réalité, personne n'a entièrement intérêt à rétablir l'ordre, parce que la France est aussi un peu contente d'avoir ses militaires en Centrafrique, de faire parler d'elle, de montrer aux États du coin que c'est elle qui gère, que celle qui est en position de force. Et du coup, pour ça, c'est pas mal de rester un petit peu plus longtemps que la durée prévue pour l'opération. Et donc, bah, pour l'instant, c'est pas mal s'il y a encore un peu de bordel, mais que la France puisse venir et taper sur la table. Donc voilà, qu'est-ce que ça nous dit encore? Selon l'ONU, 1,3 million de personnes, soit plus d'un quart de la population de la Centrafrique, ont besoin d'une assistance alimentaire immédiate, en particulier dans les camps de déplacés où s'entassent plus de 800 000 personnes, dont plus de la moitié à Bangui. Donc et ben voilà, et ben ça sera tout pour la Centrafrique ce soir.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour le moment qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre. Dès que les lois mises en place. Dès que les lois mises en place.
Témoignage, blabla, info, contre la machine à expulser.
Et alors on commence le « Il faut que ça se sache » de ce soir par une info dont je me suis demandé vite fait s'il fallait que je la mette à l'intérieur de « Il faut que ça se sache » ou pas, puisqu'il s'agit plus d'une histoire policière, un peu d'une histoire sécuritaire française qui se passe en France. Et puis que, comme on va le voir, en fait il s'agit pas de racisme d'une façon. Bon bref, vous vous souvenez que la semaine dernière, on avait parlé de quelqu'un comme ça, un mystérieux individu qui, dans les rues de Paris, aux alentours de la place de la République, jetait sur les familles roms qui dormaient sur le trottoir un liquide noir, visqueux et
corrosif.
Corrosif, merci, c'est le mot que je cherchais. Alors corrosif parce qu'il y avait des bénévoles qui venaient filer des coups de main et de la nourriture à ces personnes qui dormaient sur les trottoirs. Ces bénévoles avaient constaté d'une part que le liquide attaquait une couverture et d'autre part une des bénévoles avait posé son sac dans le liquide. Quand elle avait repris son sac, ça lui avait brûlé les doigts. Voilà, et ben sachez que ce malfaiteur a été arrêté, que bon d'une part le lendemain de notre Canu Info... Najat Vallaud-Belkacem a dit que c'était scandaleux, des trucs racistes comme ça, à Paris et tout. Et puis les flics ont fini par arrêter ce bonhomme. Bon, il faut quand même bien dire qu'on est le combien aujourd'hui ? On est le 12 février. Il a été arrêté hier, donc le 11 février. Il faut dire que l'agression qui avait été signalée dans les journaux date du 16 janvier, que les flics l'avaient su tout de suite parce que c'est des bénévoles qui étaient allés au commissariat le jour même ou le lendemain. Que c'était pas du tout la première agression, hein, que c'était la première pour laquelle il y avait vraiment eu un dépôt de plainte, parce que les Roms, bizarrement, avant, n'avaient pas tellement voulu ou osé aller jusqu'au commissariat, d'autant moins, on va y revenir, mais en tout cas, d'autant moins que le rapport avec les flics, c'est surtout que tous les matins, au lever du soleil, les flics arrivent et leur mettent des coups de pied pour les réveiller. Voilà où on en était. Mais donc là, ça y est. Même pas tout à fait un mois après, les flics ont réussi à saisir le bonhomme, quoi. Ils l'ont arrêté. Alors voilà, les journaux le disent un peu, comme ça, ils l'ont arrêté, nanana. Et puis, ils donnent quelques petites infos en plus. Et ces infos sont commentées dans un article que j'ai sous les yeux par les bénévoles qui avaient assisté à l'agression du 16 janvier. Donc, c'est des gens d'un truc qui s'appelle Entraide Citoyenne. Voilà, qui ont l'air d'être même pas vraiment des extrémistes, ou je veux dire... J'ai l'impression que nous, si on les rencontrait en buvant une bière avec eux, on finirait par les trouver un peu sauce d'aime, par exemple. Mais vous allez quand même voir qu'ils réagissent pas si mal à ce qu'ils lisent dans les journaux, quoi. Donc voilà ce qu'ils écrivent. De nombreux journaux stipulent d'une part qu'après une semaine de traque, entre guillemets, l'homme accusé d'avoir aspergé d'acide un homme et une femme rue du Temple à Paris en janvier dernier aurait été identifié puis convoqué au commissariat. Bonne nouvelle, disent-ils. Néanmoins, ce que nous en lisons dans la presse suscite des questions. Pour commencer, nous comprenons mal qu'une personne traquée, et alors là, ils vont chercher la définition de traquée dans le Larousse, c'est-à-dire en fuite ou terrée, et donc recherchée sans relâche, selon la définition du Larousse, donc que cette personne traquée soit gentiment convoquée au commissariat. Les bénévoles d'Entraide Citoyenne sont plusieurs à avoir vu et entendu l'agresseur, les commerçants alentour également. Alors pourquoi est-ce qu'il a fallu 2 semaines pour l'identifier ? Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas demandé à nous, disent-ils, de l'identifier ? Bah effectivement, d'autant plus que dans tous les articles qu'on avait lus la semaine dernière, là, ce gars, tout le monde dans le quartier le connaissait. Hein. Tout le monde savait hyper exactement qui c'était. Il a quand même fallu 2 semaines pour le retrouver. La police fait du zèle, mais pas toujours quand même. Donc, les journaux disent aussi que l'homme aurait reconnu avoir arrosé ce couple de squatteurs, entre guillemets. Alors là, eux, ils disent qu'il n'avait pas vraiment le choix de reconnaître ou de ne pas reconnaître, puisque plusieurs familles nous ont donné, dès fin août 2013, une description précise de l'agresseur, d'une mère de famille qui avait été brûlée au deuxième degré au bras à l'époque. Une description qui correspond en tout point à celle de l'homme venu à plusieurs reprises à notre rencontre pour nous demander, ouvrez les guillemets, donc pour demander aux bénévoles hein, de faire partir ça en désignant les personnes endormies sur l'auvent d'une boutique, en menaçant de nettoyer ça lui-même si nous ne les faisions pas partir, et en ajoutant que les Roms n'avaient, ouvrez les guillemets, rien à faire en France, qu'il fallait les renvoyer en Roumanie. Donc les bénévoles d'une autre asso qui s'appelle Autre Monde l'ont pris sur le fait et en donnent également la même description précise. Mais, continue la presse hein, de manière générale, c'est tout des citations qu'ils ont pris sur Le Monde, Métro et je sais plus quoi. Mais selon lui, il ne s'agissait pas d'acide mais d'un mélange de savon et de javel. Ces affirmations sur la nature du liquide sont en contradiction avec les premiers témoignages, donc qui parlaient d'un liquide noir très corrosif qui commençait à ronger et à détruire le matelas. Donc ça, c'est ce qu'avait dit un bénévole, tandis qu'une autre bénévole avait le doigt brûlé. Bon voilà, nan. Mais alors voilà, du coup, ce gars il balance des liquides. La police enquête. Mais là, personne n'analyse le truc, quoi. Je veux dire, la couverture, elle était là, le sac de la bénévole, c'était tout à disposition. Mais là, les flics, non. Alors, du coup, là, les bénévoles, ils disaient, est-ce qu'il était compliqué d'analyser le produit qui imprégnait le sac de cette bénévole? Est-ce qu'il aurait été possible de demander à un expert en chimie si les produits que cet homme a déversés en plusieurs occasions sur le sol, à l'emplacement où dorment les familles, donc trouvables quand même, hein, peuvent donner des colorations telles que celles qu'ils ont constatées et photographiées, c'était sur le bras d'une dame rome. Qui avait vraiment été cramé, quoi. Est-ce qu'il aurait été possible de demander à un expert en médecine si les brûlures de la personne agressée fin août 2013 et de celles qui ont été agressées en janvier peuvent être causées par un mélange de javel et de savon noir à un expert en médecine? Non mais on parle de Rome. De quoi ils parlent, ces gens? Voilà, alors, on continue. Hein. L'homme en garde à vue justifie son acte par son fort mécontentement face aux squatteurs de son quartier. Alors bon là, les bénévoles, ils notent quand même que quand on parle de squatteurs, en l'occurrence, c'est des gens qui dorment sur le trottoir. Donc ils squattent quand même pas grand-chose. Et puis ils continuent en relevant ces propos de Najet Vallaud-Belkacem dont je parlais. Une agression choquante, une attaque à caractère raciste. Donc c'est Najet Vallaud-Belkacem qui dénonce l'agression dont a été victime le couple qui a été agressé le 16 janvier dernier. Donc ça c'est ce qu'elle raconte à la radio. Une plainte a été déposée et l'enquête en cours permettra, je l'espère, de retrouver rapidement l'auteur de ces faits et de le traduire en justice. Donc ça c'est ce qu'elle disait la semaine dernière. Et alors là, les bénévoles, eux, ils disent « Nous avons connaissance trop régulièrement depuis des années, et plus particulièrement depuis l'arrivée de la gauche au pouvoir, d'agressions choquantes et d'attaques à caractère raciste à chaque démantèlement de camps roms. » Donc voilà, eux, ils trouvent qu'il y a beaucoup, beaucoup d'agressions choquantes et d'attaques à caractère raciste, mais que c'est quand même massivement les flics qui... Ils continuent en disant « Nous avons connaissance trop régulièrement depuis des mois d'agressions choquantes et d'attaques à caractère raciste à chaque fois que les policiers viennent réveiller au petit matin les familles endormies en leur donnant des coups de pied dans les matelas et en jetant les effets et couvertures au milieu de la rue. À chaque fois qu'un fou furieux s'en prend aux enfants ou aux femmes, à chaque fois qu'un connard, disent-ils en mettant des petits trucs à la place des lettres, mais urine ou crache sur une famille endormie, à chaque fois qu'il est impossible de les mettre à l'abri, à chaque fois qu'on les oblige à quitter la France alors qu'ils rêvent de s'y intégrer et n'ont aucun avenir là d'où ils viennent. À chaque fois. Bon, j'ai bientôt fini. Hein. Et après, ils disent quoi? Que cette attaque n'est vraisemblablement pas isolée, à en croire les habitants du quartier. Il y a des témoignages, hein, il fait ça depuis cet été. À l'époque, j'avais même prévenu la police, dit une commerçante, mais on m'a rétorqué que sans flagrant délit, il ne pouvait rien faire. Eh ben oui, ça effectivement, on l'avait déjà dit la semaine dernière. Même chose pour les bénévoles, qui disent avoir appelé plusieurs fois la police, qui ne s'est déplacée qu'une fois après, mais qui s'est déplacée, qui a quand même mis 45 minutes pour arriver, pour répondre aux bénévoles que les menaces d'agression sous condition ne constituent pas un délit, ce qui est juste en réalité faux. Mais voilà, mais bon, comme c'est les flics qui disent la loi, à des moments, on se retrouve face à des choses assez inventives de leur part. Selon les informations données ce lundi matin par la préfecture de police de Paris, rien ne permet à ce stade de faire un lien entre la nationalité de la victime et l'agression qui a été subie. Ah bah ça, effectivement, hein, selon toute vraisemblance, ça n'a rien à voir le fait que les gens étaient roms ou roumains, avec le fait qu'ils soient pris de l'acide ou de la javel mélangée à du savon. Donc Bernard Boucaud, qui est le préfet de police de Paris, a ajouté qu'il fallait rester prudent dans la qualification des faits et son contexte, le contexte de la qualification peut-être. Ou peut-être c'est que M. Boucaud a des problèmes de grammaire. Mais donc, surtout, ne pas être trop hâtif à dire qu'il s'agissait d'attaques à caractère raciste, quand même. Donc là, les bénévoles rappellent à ce moment-là que l'homme leur avait affirmé, mais que les Roms n'avaient, ouvrez les guillemets, rien à faire en France, qu'il fallait les renvoyer en Roumanie. En tout cas, il est arrêté, quoi.
Mais j'ai une question, il a quoi comme chef d'inculpation ?
Oh bah, pour l'instant, il est en garde à vue, il n'y a pas encore...
Mais si, je crois, et moi j'avais entendu dire qu'il était inculpé de violence volontaire avec préméditation. Mais pas de trucs à caractère raciste.
Bah c'est sûr, pour l'instant, il n'est pas inculpé de trucs à caractère raciste, ouais. Puisque c'est juste une sorte de haine sociale qu'il avait et non raciale, semble-t-il. D'après ce qu'il dit lui-même.
Il n'aime pas les pauvres.
Ouais, c'est ça, c'est qu'il n'aime pas les pauvres. C'est pas qu'il n'aime pas les Roumains, c'est qu'il n'aime pas les pauvres. Mais de fait, hein, c'est en n'aimant pas les pauvres, il risque moins qu'en n'aimant pas les Roumains.
Il faut que ça se sache.
Eh ben, on va faire un petit tour du côté de Ceuta. Ça s'est passé le 6 février 2014. Il y a 400 migrants qui auraient tenté de traverser la frontière séparant le Maroc de Ceuta en passant par la zone du Tarajal. C'est à l'ouest de Ceuta. Malheureusement, les forces de sécurité marocaines sont intervenues et personne n'a réussi à passer. Avec ça, il y a un groupe de personnes qui a alors tenté de passer à la nage. On ne sait pas s'il y a des personnes qui y sont parvenues. Ce qu'on sait malheureusement, c'est qu'au moins 8 corps ont été repêchés, 8 personnes qui sont donc mortes, noyées.
Il faut que ça se sache.
Calais, maintenant, où il y a eu des manifestations. Donc c'était mardi dernier, le matin, une vingtaine d'exilés, principalement syriens, égyptiens et afghans, avaient tenté d'occuper la passerelle piétonne du port sur les traces de l'occupation des Syriens en octobre dernier, en octobre 2013, qui avait duré 3 jours. Mais cette fois, la sécurité du port et la police ne se sont pas laissés surprendre par les personnes et les exilés et leur soutien associatif ont manifesté 1h30 devant le port, puis ont dû se disperser, du moins, je veux dire, la police leur a demandé de se disperser. Cette manifestation fait suite à la mort de 2 exilés en moins d'une semaine. Donc je vais préciser un peu les conditions de mort des personnes. C'est dans la nuit du 30 au 31 janvier, vers 4h du matin. Une personne a été fauchée par une voiture et le chauffeur a continué sa route, donc laissant une personne mourir sans appeler les secours. Et la deuxième personne qui est morte, c'est dans la nuit du dimanche de février. Il y a un coup de fusil qui a été tiré dans une zone industrielle de Calais. Une personne est morte. Et le seul témoin identifié, un ami à la personne qui est morte ayant appelé les secours, a été placé en garde à vue comme un suspect.
En précisant pour la première personne qui s'est fait faucher par un camion, ils étaient 3 ou 4, je crois, à s'être planqués dans un camion. Vous savez, là, c'est une des techniques à Calais, de se planquer dans un camion pour pouvoir passer la frontière. Le chauffeur du camion où ils étaient planqués avait remarqué, enfin, les avaient repérés, eux avaient vu qu'ils avaient été repérés, du coup, c'est à ce moment-là où ils se sont barrés en courant et le gars s'est fait percuter par une voiture en se barrant.
D'accord, ouais. Très bien. Donc les manifestants réagissaient aussi sur leurs conditions de vie et sur les harcèlements policiers à Calais. Et le samedi 8 février, il y a eu une nouvelle manifestation dans l'après-midi. Cette fois, il y avait une quarantaine d'exilés syriens, égyptiens, kurdes, afghans, mais aussi soudanais et érythréens. Et du coup, toujours leur soutien associatif qui ont parcouru la ville. Donc, là où il y a la distribution des repas jusqu'au théâtre et le retour, vous voyez. Et les slogans portaient principalement sur les conditions de vie, donc d'avoir des conditions de vie normales, la liberté de circulation, la liberté tout court et l'union entre les exilés de toute origine. Et j'ai lu un article qui dit que ce mouvement va sûrement continuer dans les prochains jours, donc on leur souhaite beaucoup de force pour continuer les manifs à Calais dans ces conditions assez hostiles. Et je voulais faire un petit clin d'œil. C'est un policier anonyme qui faisait cette déclaration au Monde le 22 janvier 2014. Donc je cite, « Il suffit de faire une vacation à Calais, d'interpeller beaucoup d'étrangers en situation irrégulière, ce qui n'est pas très dur là-bas, et on touche la prime. » Donc, petite précision, donc, pour les CRS de base, cette prime est de 1000 euros. Et le Canard enchaîné du 6 novembre 2013 nous apprenait que ce montant augmente fortement avec le grade, donc 8232 euros pour un lieutenant et jusqu'à 58 104 euros pour un inspecteur des services ou un inspecteur général. Et tout ça, c'est la fameuse prime au mérite mise en place par Sarko en 2004. Donc tu m'étonnes que ça booste la motivation, vu le tarot.
Il faut que ça se sache.
On revient dans le coin et ça s'est passé au centre de rétention de Saint-Exupéry, le centre de rétention de Lyon donc, où une militante de l'association AIDS devait être expulsée vers le Cameroun ce lundi. Sauf qu'une fois dans l'avion, elle a commencé à protester et a réussi à interpeller le commandant de bord qui a donc décidé de refuser son embarquement. Parce qu'on le rappelle, le commandant de bord étant le seul chef à bord d'un avion, les flics ont rien à dire si le commandant de bord dit non mais cette personne n'embarque pas, il n'a pas besoin de se justifier, rien. Ce qui donne dans la vie des fois un peu envie d'être commandant de bord pour dire aux flics vous dégagez. Bon, ils le font pas tous, hein. Ceux qui le font on est content, mais c'est quand même pas la majorité des cas. Elle explique que c'est à ce moment-là où les choses ont empiré. Elle raconte qu'elle a reçu un violent coup de pied qui l'aurait fait chuter et un coup de pied qui lui a fait bien mal. Elle a tenté de porter plainte, mais bon, ça, on sait que quand on est dans les mains des flics, tenter de porter plainte contre ses collègues ou porter plainte pour son agresseur qu'on a en face de soi, en général, ça donne plutôt un refus de prendre la déposition. L'association AIDS appelle Valls à mettre un terme à ces pratiques indignes et demande l'annulation de la reconduite à la frontière et la libération de Patricia. Patricia, c'est la personne qui devait être expulsée.
Il faut que ça sache, là, il y a quand même que des nouvelles pourries, on n'a pas eu la moindre évasion ni rien. Alors on a eu, alors là tu viens de nous raconter l'autre qui se prend des coups de pied, avant on a eu les gens qui se faisaient buter à Calais, avant on a eu les gens qui se sont noyés, heureusement que j'étais là pour avoir une petite bonne nouvelle au départ, avec le gars qui va quand même peut-être se faire inculper de jet de savon ou je sais pas quoi, ce qui est bon. D'accord, mais en fait, heureusement que maintenant, j'ai une sacrée, sérieuse, réelle, bonne nouvelle. Un truc un petit peu fou. Pardon. Ça s'est passé hier, et c'est le tout nouveau maire de New York qui s'appelle Bill de Blasio, qui est là depuis le début de l'année, donc vraiment tout récent, et qui a annoncé que les sans-papiers new-yorkais disposeraient désormais de cartes d'identité municipale afin de ne plus vivre dans l'ombre, dit-il. Attention, là, c'est lui qui parle. Je vais pas vous la faire en anglais. Je vais vous faire la traduction. New York est notre foyer à tous. Nous ne saurions tolérer que certains de ses habitants y vivent dans l'ombre. Ça, c'est ce qu'a dit Bill de Blasio en annonçant la création d'une carte d'identité municipale pour les sans-papiers de la ville. Et attention, il continue. Nous protégerons le 500 000 de New Yorkais sans-papiers. Il va quand même filer des papiers à 500 000 personnes, quoi. Dans une ville où il y a 8,5 millions de gens.
Peut-être c'est quand même pour mieux les contrôler.
Bref,
continue.
Non mais ça va, minute, attends, il y a 500 000 personnes qui vont avoir des papiers à New York, je peux pas direct cracher sur les gens qui font ça, quoi. Donc nous protégerons le 500 000 de New Yorkais sans papiers dont les voix ne se font pas assez entendre. Nous nous tournerons vers tous les New-Yorkais, peu importe leur statut, aux yeux des services de l'immigration, et nous leur délivrerons des cartes d'identité municipales. L'initiative vise, selon ce qu'il continue à dire, à permettre aux sans-papiers d'avoir accès à un compte bancaire, à des contrats de location de logement, voire aux bibliothèques municipales, autant de services qui sont du coup inaccessibles si on n'a pas de document officiel. Et autant dire que cette annonce de ce nouveau maire là intervient alors que les tentatives pour régulariser les quelques 11 millions de sans-papiers qui vivent aux États-Unis sont bloquées, toujours par des élus conservateurs de la Chambre des représentants. Et autant dire qu'il y a je ne sais plus trop quelle candidate du Front de Gauche à la mairie de Paris qui vient de dire que tiens, si jamais elle est élue, mais bon, et ben elle pourrait aussi filer des cartes d'identité municipale aux sans-papiers de Paris, ce qui donnerait quasiment envie d'avoir une carte d'électeur si on habitait à Paris, mais bon, en même temps, ça servira à rien, elle sera jamais élue.
Il faut que ça se sache.
Et voilà, c'est l'heure de la fin de ce Canu Info.
Oh putain, regardez pas la pendule.
C'est ça.
Mais d'abord, la météo.
On va finir par une petite météo, alors écoutez bien ce que je vais vous dire.
Alors, est-ce qu'il va faire beau demain?
Attends, avant demain...
Jusqu'à déjà... maintenant, il n'y a que moi qui ai eu des bonnes nouvelles, fais quelque chose.
Bah écoutez, moi pour l'instant, j'aurai des bonnes nouvelles. Météo France a annoncé que le temps devrait rester plus chaud que la normale jusqu'à fin avril.
Wow.
Et également plus sec.
Waouh, mais c'est génial ça.
A priori, aucune vague de froid n'est à prévoir. Bon, il précise quand même qu'il s'agit de prévisions sur le long terme et donc pas fiables à 100%. Bon, ça, pas besoin de précision, vous connaissez Météo France non plus. Hein.
Oui, c'est ça, parce que généralement déjà, dans va-t-il pleuvoir sur le site, va-t-il pleuvoir dans l'heure, c'est déjà de la merde. Alors pour fin avril...
Non, il pleut pas du tout, toi tu regardes par ta fenêtre, tu fais « Ah bon, tiens, je vais quand même pas sortir de chez moi ». Bon, bah c'est pas sûr à 100% et puis c'est pas non plus dans l'immédiat, quoi.
C'est drôle s'il y a une grosse vague de froid en mars quand même, où il fait comme l'année dernière, là, moins 5 partout.
Non.
Non, t'es pessimiste ce soir. Non, on veut qu'ils aient raison, Météo France. Mais du coup, pour les jours qui viennent, il va certes pas faire vraiment très froid, mais on va pas dire qu'il va faire sec non plus. Alors, jeudi, c'est-à-dire demain, les températures iront de 6 degrés à 12 degrés l'après-midi. Et la pluie est à prévoir du matin à l'après-midi. Le soleil fera son apparition en début de soirée. Autant dire que vous ne le verrez pas, mais qu'il n'y aura plus de nuages pour vous cacher le soleil qui n'existe pas. Dans votre soirée, vendredi, les températures se maintiendront. On aura 4 degrés le matin et jusqu'à 11 degrés l'après-midi. Le matin commencera par des pluie éparse, mais l'après-midi sera sous le signe de belles éclaircies. Samedi, l'entrée en week-end sera catastrophique, avec de la pluie tout samedi, hein. Matin, midi, soir, pendant la nuit aussi. Des températures matinales plutôt convenables, mais qui donneront pas non plus envie de sortir de la couette, avec 12 degrés, et les températures baisseront l'après-midi. Tiens, cette fois-ci, on aura 10 degrés en fin d'après-midi. Dimanche, c'est un week-end à rester chez soi, sous la couette, aller au ciné, tout ça là, faire les trucs où on traîne, mais pas aller se promener au parc. Parce que dimanche, il y aura des averses quasiment toute la journée, avec le soleil pointera le bout de son nez des petits moments par-ci par-là, et les températures iront de 7 degrés à 8 degrés l'après-midi. Les tendances de la semaine prochaine, c'est pas mirobolant, mais on va vers un peu plus de soleil le lundi, des températures constantes entre 10 et 8 degrés. Et le mardi, mercredi d'après, la pluie sera là par intermittence, comme on dit, et il y aura aussi un peu de pluie du coup. Bon, il va faire sec, mais pas dans l'immédiat. On espère les jours d'après, quoi.
Bon ben voilà, peu de bonnes nouvelles dans ce Canu Info, et puis on peut rarement dire ça, alors on va en profiter. Si vous voulez un peu plus de joie, partez vers New York.
Si vous avez les moyens aussi. Hein. Et ben, on a fini.
Et c'est même pas la peine d'avoir une green card, quoi. C'est fini, rapidos.
Donc à la semaine prochaine.
Et on vous laisse avec 20 minutes de bande continue, et à 8h vous retrouverez l'émission Idées Noires.
Enfin certainement, parce que
on les voit pas.